Bonjour, soyez les bienvenus dans Allô, ici Bouvard, jusqu'à midi sur RTL et on dit bonjour Philippe. Bonjour Philippe Bouvard.
Bonjour Virginie, bonjour vous tous. Eh bien, si vous voulez, on va attaquer le premier sujet.
Eh bien, c'est parti.
Une exposition se tient à Dijon qui va intéresser à la fois les gastronomes, les historiens et peut-être les contribuables. Elle a été organisée par Madame Caroline Poulain. Bonjour Madame.
Bonjour.
Vous êtes la conservatrice de cette exposition qui se tient à Dijon et qui, sous le titre générique de « À la table du président », réunit des centaines de menus servis non seulement à l'Élysée, mais dans les châteaux de la République.
Hein. C'est ça, absolument. La bibliothèque conserve une des plus grandes collections de menus, avec à peu près 17 000 pièces aujourd'hui. Et on en expose une centaine pendant cette exposition.
Le premier de ces menus remonte au début du siècle. Je crois avoir noté qu'il s'agissait d'Émile Loubet, qui était à l'époque président de la République. Et ça m'a remis en mémoire une anecdote que vous devez connaître à ce menu, qui correspond à l'invitation à l'Élysée du roi et de la reine d'Angleterre. Et à la fin du repas, en désignant le prince de Galles, la femme, l'épouse du président de la République, avait dit à la reine, en désignant le prince de Galles, « Et ce grand garçon, qu'est-ce que vous allez en faire plus tard ?» C'est vrai ?
Alors, l'anecdote est connue, on la retrouve dans les ouvrages sur l'Élysée, et maintenant, je n'en sais pas plus.
À l'époque, on mangeait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein. Votre exposition prouve qu'on a diminué par deux le nombre de plats servis dans les repas officiels.
En même par trois, on peut dire, hein, puisque les menus de la fin du 19e, début du 20e siècle ont encore 15 à 20 plats, avec un ordonnancement qu'on ne comprend plus du tout aujourd'hui. On n'est pas du tout sur une structure entrée, plat, dessert.
Des menus richement préparés et richement illustrés, avec les grands artistes de l'époque.
Alors, pour le début du XXe siècle, effectivement, l'Élysée fait faire des grandes compositions allégoriques à des artistes de l'époque pour les occasions, et on a des grandes compositions illustrées qui sont très belles, en couleurs, qui représentent la France, souvent sous la forme d'une femme avec un bonnet phrygien, et puis le pays accueilli avec ses attributs, et là encore sous la forme d'une allégorie féminine.
Donc, 17 présidents qui se sont succédés, le premier étant Émile Loubet, le dernier étant Emmanuel Macron. Qui recevait-il notre actuel chef d'État ?
C'est en septembre de cette année, il recevait le prince héritier du Japon, Naruhito, à Versailles, hein, puisque le président Macron réutilise beaucoup le château de Versailles. Et ce menu est très intéressant parce qu'on y voit une purée de pommes de terre qui est servie, mais pas n'importe quelle purée de pommes de terre, puisqu'il s'agit de la purée Joël Robuchon qui venait juste de décéder au moment de ce dîner.
Est-ce que on doit au général de Gaulle d'avoir renoué avec les grands dîners ?
Oui, alors sous la quatrième, c'est vrai qu'on a moins de dîners d'État, et puis des menus qui sont beaucoup plus sobres, qui sont des petites pièces, pas très très intéressantes du point de vue graphique. Sous De Gaulle, on reprend cette tradition-là et avec un nouveau format de menu qui représente en couverture les palais de la République, gravés en noir et blanc avec des artistes, là encore, de l'époque qui travaillent pour l'Élysée.
Et est-ce qu'on doit à Nicolas Sarkozy d'avoir réduit la durée des repas officiels ?
Oui, alors les grands dîners du début du XXe siècle duraient 2 à 3 heures. Aujourd'hui, on est sur une durée de 45 minutes, parfois moins quand protocole...
Je crois même qu'on cite un repas avec Obama qui n'avait pas excédé 12 minutes.
Oui, c'est ça. C'est en juin 2009, à l'occasion des cérémonies de l'anniversaire du débarquement allié. Le pauvre chef étoilé de camp qui a fait le repas a vu son repas englouti en 12 minutes.
Est-ce que vous vous êtes avisé qu'à un certain moment, et très tard je crois, il n'y avait pas de cuisine à l'Élysée ?
Non, il faut attendre Vincent Auriol pour qu'il y ait des cuisines. Auparavant, ce sont des traiteurs effectivement qui font office. Et puis à partir d'Auriol, on a des cuisines qui vont être rénovées au cours du XXe siècle. Et puis aujourd'hui, on a donc un chef à demeure à l'Élysée avec une brigade d'une vingtaine de cuisiniers.
Est-ce que quand on établit un menu officiel avant l'arrivée d'un hôte de marque, on tient compte de ses allergies, des interdits religieux, bref, de tout ce qui peut influer sur la composition d'un repas ?
Absolument. Les diplomates passent au chef toutes ces informations que vous venez de citer. Le chef va faire trois propositions de dîner. C'est le chef de l'État qui va au final trancher, mais effectivement, on tient compte des interdits alimentaires, des goûts, des dégoûts. Mais normalement, le chef d'État invité n'intervient pas, ne va pas dire « je veux manger ceci ou cela ». C'est la France qui décide de ce qu'elle va offrir à ses hôtes.
Combien de temps va durer l'exposition encore ?
Alors, on la prolonge jusqu'à la fin du mois de janvier, donc jusqu'au samedi 2 février.
Oh, il faudra la prolonger sûrement, vous savez, et peut-être même venir la faire voir de plus près aux Parisiens.
Ah bah écoutez, si vous avez une idée de lieu d'exposition à Paris, on est à votre écoute.
Merci et bravo, Madame Poulain.
Merci à vous, au revoir.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Alors c'est une question qu'on ne pose plus tous les mois, mais tous les trimestres, parce que le gouvernement a choisi de différer la statistique. Pourquoi la courbe du chômage s'obstine-t-elle à ne pas s'inverser ? Bon, les réponses sont classiques et elles sont tellement anciennes d'ailleurs qu'on commence à s'étonner, voire à être fâché qu'on ne leur ait pas trouvé de meilleure solution. Mais enfin, c'est comme ça, il y a des raisons qui sont des raisons d'État, des raisons qui sont des raisons sociales, et puis il y a sans doute des raisons humaines qui sont différentes et que les technocrates n'apprécient pas toujours. J'aurais quand même remarqué que Hollande a pris le risque, dès le début de son quinquennat, de parler de l'inversion de la courbe du chômage et qu'à 18 mois de son élection, Emmanuel Macron promet qu'à la fin de son quinquennat, le chômage sera retombé de 8,7%, ce qui est le chiffre actuel, au chiffre beaucoup plus consensuel et satisfaisant de 7%. Donc vous voyez, chacun y va de sa promesse et ça ne veut pas dire que la promesse sera réalisée parce que les raisons de maintien du chômage, elles sont toujours là et on peut reprocher aux gouvernements successifs de ne pas mieux avoir trouvé les solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a un chiffre qui est terrifiant, qu'on ne donne pas toujours parce qu'il cumule les demandeurs d'emploi non satisfaits, les chômeurs, et puis tous ceux qu'on a rayés de la statistique, puisque le chômage étant un cancer, on le traite aussi avec des radiations. Et dans ces cas-là, on arrive au chiffre de 5 950 000. Ce qui est considérable, hein, et ce qui est d'ailleurs bien supérieur à l'indice que tous les trimestres on consent à nous livrer. Alors aujourd'hui, il y a la croissance qui n'est pas au rendez-vous comme on l'espérait. Et cette croissance, elle était génératrice d'emplois. Donc là, il faut faire aussi un trait sur l'espoir que les chiffres de l'INSEE avaient fait naître avant d'être révisés par les spécialistes. Et puis, il y a toujours les charges qui sont trop élevées et qui dissuadent les chefs d'entreprise d'engager en CDI. Et non seulement ça, mais ces charges qui s'ajoutent à toutes les taxes que l'on doit acquitter nuisent à la compétitivité. Et puis, il y a aussi une inspection du travail qui est très tatillonne. Et puis, il y a la réduction des emplois aidés. Alors là, on n'est pas tout à fait d'accord parce que les emplois aidés fournissaient quelques emplois aux jeunes auxquels ils étaient destinés. Mais paraît-il, ces emplois aidés ne se transformaient pas en emplois pérennes. C'est-à-dire qu'on engageait un jeune pendant quelques mois, il participait à une amélioration factice de la statistique, mais ce n'est pas pour ça qu'à l'issue de son premier contrat, il retrouvait un emploi stable. Alors ensuite, il y a toujours le même refrain de la part de ceux qui prennent des mesures, qui, par exemple, ont fait voter une loi travail qui a peut-être du bon, mais dont évidemment on souligne surtout le mauvais, c'est que les mesures qu'on a prises sont trop récentes pour qu'elles aient eu encore un impact sur la situation. Donc ça revient toujours à dire, on a fait ce qu'on pouvait, ne désespérons pas et ça ira mieux demain ou encore mieux après-demain. Alors, il faut quand même rappeler que l'offre officielle a été modulée, qu'aujourd'hui elle est à 30 km au maximum du domicile et que le salaire qu'on propose doit correspondre à 80% au moins du salaire antérieur. Mais enfin, ça n'empêche pas certains demandeurs d'emploi de ne pas accepter ce qu'on leur propose, ne serait-ce que parce que ça ne leur plaît pas, mais ils ont droit à deux refus, pas plus, et ne serait-ce surtout que parce qu'ils trouvent inconvenant de ne pas gagner davantage en travaillant qu'en se reposant. Et puis alors, il y a ceux qui n'écoutent pas M. Macron quand il dit qu'il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. C'est-à-dire qu'on vient leur proposer, parfois à domicile, des emplois qu'ils refusent, à telle enseigne qu'on n'arrive pas à pourvoir entre 200 000 et 330 000 emplois dans le bâtiment, dans l'hôtellerie et dans la restauration. Bon, pas des emplois les mieux payés et les plus gratifiants, mais des emplois quand même et dans des métiers tout à fait honorables. Alors, le plus paradoxal dans tout ça, c'est qu'on crée quand même des emplois, qu'on crée des entreprises, mais que ces entreprises, souvent, pendant plusieurs mois au départ, sont des coquilles vides parce qu'elles n'embauchent pas tout de suite. Ah, on n'a pas fini d'en parler.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Alors, du changement dans les VTC, et un changement qui était sans doute souhaitable, des femmes vont être conductrices de femmes, et surtout de celles qui, le soir venu, entendent rentrer chez elles paisiblement et sans être importunées. Bonjour Madame Furcave.
Bonjour Monsieur Bouvard.
Alors, je salue en vous l'initiatrice et la patronne de cette nouvelle société qui va donc mettre à la disposition des dames des conductrices féminines. Est-ce qu'il y avait beaucoup de plaintes contre les chauffeurs mâles par lesquels il fallait passer parce qu'ils étaient quand même 95% des effectifs, hein?
Exactement, ils sont 95%. D'ailleurs, j'en profite pour saluer leur travail parce qu'il faut savoir que c'est un métier pour lequel nous sommes formés, donc il y a de vrais professionnels. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est que certaines clientes aujourd'hui n'ont plus confiance et parce qu'elles sont confinées dans un espace qui est une voiture, ce n'est pas un espace public, préfèrent à certains moments, pour des raisons qui leur sont propres, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'intimité. Vous savez qu'on est dans une période où maintenant les femmes ont décidé de se protéger un peu plus, d'affirmer aussi le fait qu'elles puissent ressentir un malaise à un certain moment dans un espace qui est confiné. Donc effectivement, elles ont exprimé le souhait d'être conduites à certains moments de la journée, exclusivement par une femme.
Alors, est-ce qu'il y a sur les voitures que conduisent ces dames et ces demoiselles un signe distinctif?
Absolument pas. Il n'est absolument pas envisagé.
Et est-ce qu'à l'intérieur, on a des aménagements qu'on ne trouve pas dans les autres voitures?
Alors oui, alors on leur prévoit des petits cadeaux, des choses, des petites attentions purement féminines, des petites lingettes pour se rafraîchir, des petits miroirs, ce sont des cadeaux qu'on leur offre d'ailleurs, mais aussi on met à la disposition des mamans, des sièges auto.
Mais s'il y a des sièges bébés, c'est qu'à un certain moment de leur vie, il y a des dames qui ont consenti que les hommes les approchent.
Mais tout à fait, d'ailleurs nous ne sommes pas contre les hommes, ce n'est pas l'objet du tout de Colette. Et sachez que les hommes ne sont pas interdits dans les voitures. qu'ils sont accompagnés de leurs dames.
Comment l'inspection du travail a-t-elle réagi devant ce qui constitue quand même, pour certains, une discrimination ?
Alors, sachez que l'on n'embauche personne. Les conductrices sont des femmes d'entreprise, sont des chefs d'entreprise qui sont à leur propre compte et qui font appel à Colette pour pouvoir être accessibles auprès d'une clientèle de femmes. Donc on ne les embauche pas.
Quelle redevance les chauffeuses versent-elles à la plateforme dont elles dépendent ?
Aujourd'hui, la mise en relation, donc un service que l'on propose entre les conductrices et les utilisatrices, est aujourd'hui, entre guillemets, facturé à 15% de leur chiffre d'affaires hors taxe, là où les autres plateformes sont à 20-25%.
Est-ce que les tarifs pratiqués à l'égard des clients sont identiques à ceux d'Uber ?
Oui, tout à fait. Nous restons compétitifs puisque nous sommes à un minimum de 9 euros lorsque nos concurrents sont à peu près à 6, 7 ou 8 euros. Donc, ça reste des prix tout à fait compétitifs et à la hauteur de ce que proposent les autres plateformes.
Est-ce que les assurances ne vous consentent pas des tarifs de faveur par rapport à ceux qui sont appliqués ordinairement, puisque la femme est réputée conduire beaucoup plus prudemment que l'homme ?
Il faudrait leur poser la question et en toute sincérité, je pense que oui.
Ben écoutez, c'est à vous de poser la question parce que c'est vous qui ferez une économie, c'est pas moi. Merci et bravo.
Merci, monsieur Bouvard.
Quel rôle tiennent aujourd'hui les parents d'élèves ? Ben, je vais poser la question à celui qui dirige l'une de leurs principales associations, monsieur Raymond Artis. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il vous est arrivé, à la suite de rendez-vous rue de Grenelle, d'obtenir des changements que vous souhaitiez de la part du ministre de tutelle ?
Alors, il nous est arrivé d'obtenir un certain nombre de choses, hein, comme le statut du parent délégué, mais c'est vrai qu'il est souvent difficile de faire évoluer les choses.
Vous pouvez donner votre avis sur de multiples sujets. Alors, les rythmes scolaires, bien sûr, vous êtes intervenu plusieurs fois, sans doute, déjà. Les menus de la cantine, la sécurité, l'hygiène, et peut-être même la dernière idée du gouvernement, la présence de policiers dans les classes.
Oui, tout à fait. Nous intervenons sur tous ces sujets-là. L'éducation à la sexualité, nous avons également à intervenir en début d'année sur ce sujet-là, rétablir un petit peu les choses.
Est-ce que vous n'êtes pas déçu que pas plus de parents d'élèves n'adhèrent aux deux principales associations dont je rappelle que vous présidez la principale ?
La principale. Eh bien oui, c'est un grand regret et nous répétons d'ailleurs chaque année au moment des élections de représentants de parents d'élèves qu'il n'y ait pas les campagnes officielles nationales qu'il faut. Donc nous souhaiterions que plutôt que les parents aient une action individuelle, une action consumériste, qu'ils soient au sein d'une fédération et qu'ils agissent de façon installée la coéducation à laquelle la CPE tient, hein, puisqu'il s'agit d'une collaboration.
Je vais vous poser, M. Artis, une question de Béotien. Béotien, je le suis parce que j'ai eu des enfants qui ont été à l'école. Et j'ai des petits-enfants qui en sont sortis aussi. C'est vous dire que je ne suis pas un perdreau de l'année. Et enfin, j'ai des arrière-petits-enfants qui entrent très tôt, d'ailleurs, en crèche puis en maternelle. Est-ce que vous avez constaté que les parents qui adhérer à une association, que ce soit la vôtre ou même à une liste indépendante, s'occuper mieux des enfants et que les enfants avaient de meilleurs résultats scolaires.
Oui, absolument. À partir du moment où les parents s'impliquent et donnent à l'enfant le sentiment qu'ils sont investis dans la relation entre les membres, les partenaires de la communauté éducative, les résultats sont bien meilleurs. Puisque il ne s'agit pas à ce moment-là, quand on adhère à une fédération comme la nôtre ou d'ailleurs quand on s'investit dans l'école, on espère qu'il ne s'agit pas entre parents de discuter d'un éventuel mode d'emploi qui dégagerait la dimension réglementaire.
Ou qui est aussi des élèves qui siègent dans vos conseils.
Des élèves qui siègent dans nos conseils. Non, nous les accompagnons en matière de formation, mais ils ne participent pas à nos conseils, non pas du tout. Non.
Attendez, on les admet une fois par an sur les gradins de l'Assemblée nationale. Vous pourriez aussi leur faire une petite place dans vos délibérations.
Alors, on leur fait non pas une petite place, mais une grande place, puisqu'on les accueille à la fédération, on les accompagne dans les actions, puisque notre fédération aussi les amène à l'autonomie. Quelque part. Donc, effectivement, on les accompagne, on les invite à prendre leurs responsabilités quand ils sont dans des organisations lycéennes. Et puis, quand ils sont un peu plus petits, bon, c'est vrai qu'on pourrait imaginer de les entendre, mais en général, ça se fait hors des instances statutaires de notre fédération.
Un grand merci et bon courage, monsieur Artis.
Merci beaucoup.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Et le mot de la semaine, me direz-vous, ben je ne l'oublie pas davantage que ceux qui font métier d'enrichir la langue française avec des nouveaux mots. Et celui qui revient dans les conversations aujourd'hui, pas encore dans le dictionnaire, mais ça viendra peut-être, c'est le mot « démocrature ». Et « démocrature », bon, pas besoin d'être grand clair pour s'aviser que ça réunit à la fois la démocratie et la dictature. C'est donc un néologisme, c'est-à-dire un vocable complètement nouveau. Et ensuite, c'est un oxymore, c'est-à-dire un mot dont les composantes se contredisent, parce que rien ne ressemble moins à la dictature que la démocratie et vice-versa. Or, qu'est-ce que la démocrature ? Eh bien, c'est un régime qui crée l'illusion parce qu'elle paraît respecter tous les impératifs de la démocratie, c'est-à-dire les élections, la constitution, la séparation du pouvoir, mais en fait, elle n'en fait qu'à sa tête, comme les dictatures. Alors, on peut noter, et peut-être d'ailleurs avec une certaine appréhension, que elle a eu des recrues nouvelles qui se sont ajoutées à celles dont elle disposait déjà, c'est-à-dire les Turcs, c'est-à-dire les Russes, c'est-à-dire les Hongrois, et que ces nouveaux venus sont les Brésiliens qui ont voté, voilà quelques heures, pour Jair Bolsonaro.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais le dimanche 18 novembre à 11h30 sur RTL pour un nouveau numéro de Allô, ici Bouvard, Philippe ?
Oui, dans 15 jours seulement, mais toujours la même formule, c'est-à-dire d'autres sujets. Merci et au 18 novembre.
Ah, dans 15 jours, on fait un point sur l'information et vous retrouverez ensuite votre rendez-vous politique du dimanche, le grand jury RTL Le Figaro LCI, qui recevra Ségolène Royal. Vous écoutez RTL, il est midi.